Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un homme d'aujourd'hui qui n'a pas peur de se poser des questions et d'en ouvrir de nouvelles et de découvrir de nouvelles interrogations de la vie. On y va pour les détails.
Médien, Yasmine, version homme.
Et Soufiane Raji, bonjour.
Bonjour Yasmine, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Le plaisir est partagé. Je vais vous faire un aveu, monsieur Raji, vous avez une voix très reposante. On vous le dit souvent ?
Non, pas souvent.
C'est vrai ?
J'accepte, je prends. Merci.
L'alerte.
Je vous retourne le compliment.
Merci beaucoup. Alors, monsieur Raji, vous êtes, on va dire, un monsieur à plusieurs casquettes, un homme à plusieurs casquettes. Vous êtes dans les RH, vous êtes un auteur, vous êtes un conférencier, vous êtes un coach. Est-ce que forcément, quand on travaille avec les hommes, avec un grand H, avec l'humain, parce que je pense que votre première casquette professionnelle, ça a été dans les RH, l'humain nous apprend à nous dépasser et donc forcément à aller chercher le meilleur en nous-mêmes.
Je voudrais faire une petite correction.
Oui, bien sûr.
Mon cursus professionnel est principalement en informatique.
En plus.
Mais avec, effectivement, en fait, j'ai effectivement eu depuis toujours une passion pour comme vous dites, pour l'humain. Mm. Donc, en fait, en parallèle avec mes études d'ingénierie, j'avais suivi un degré de psychologie. Et ensuite, quand j'ai commencé mon parcours professionnel, ben, je passe facilement 20% de mon temps en formation. Ça a donné des formations à travailler avec l'équipe ressources humaines, en effet. Mmh. Et donc, ce qui m'a permis de faire un passage dans les dernières années, effectivement, en ressources humaines.
Mais alors,
c'est un domaine de passion.
Alors, j'aurais compris si dès le départ, vous aviez été dans les RH et donc forcément, quand on côtoie les gens, etc., quand on a de la sensibilité, on n'est pas juste technique, mais on est humain et on se dit, bon, très bien, je vais aller me former davantage pour pouvoir acquérir encore plus d'outils, pour pouvoir interagir plus facilement. Mais vous, c'est différent. Vous avez commencé dans l'informatique. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé ? Qu'est-ce qui vous a stimulé de l'intérieur pour aller vers les sciences humaines en même temps, vous avez dit psychologie, ensuite coaching, etc.
Ouais. En fait, vous avez mis le doigt dessus dans votre première remarque. C'est effectivement d'abord une recherche de soi, une tentative de mieux se comprendre, de mieux aussi comprendre les relations humaines, qu'est-ce qui fait qu'on peut tendre. C'est un mot qu'on n'utilisait pas à l'époque, mais maintenant qui revient souvent. Donc, comment est-ce qu'on peut être heureux, tout simplement? Donc, parce qu'on l'est en se comprenant mieux, on l'est en réussissant dans nos interactions avec les autres. Et au fur et à mesure de mon parcours professionnel, donc quand j'ai pris des responsabilités, par exemple, managériales, ben après, c'est la responsabilité qu'on porte à rendre nos équipes heureuses également.
Absolument, c'est notre objectif, oui. Absolument. Alors, pas que vous soyez bien sûr très âgé, mais j'ai l'impression que vous avez commencé ce cheminement à une époque où ce n'était pas encore à la mode comme aujourd'hui.
Effectivement, j'ai commencé comme on disait à l'époque, en costard-cravate.
Ouais.
Donc c'était cravate obligatoire.
Lors des séminaires
Non, pour le travail de tous les jours.
Pour le travail de tous les jours, oui.
Donc cela vous donne un peu le cadre de ce qu'on appelle de command and control. Mm. Donc il y avait à l'époque où il fallait obéir à la hiérarchie, informer son supérieur avant de prendre n'importe quelle initiative, vérifier, tripler les vérifications pour éviter les erreurs. Aujourd'hui, heureusement, le monde professionnel évolue. On donne plus de chance, on est plus à l'écoute. Un peu plus qu'avant, en tout cas.
J'aime bien la précision. Un peu plus qu'avant, ça veut dire que le terrain vous remonte autre chose que la théorie.
il y a encore plein de choses à faire.
Bien sûr.
Il y a dans notre cadre marocain, quelques environnements qui servent de locomotive, je dirais, au reste. Ben, ça a toujours été le cas. Je pense qu'il y a des sociétés qui aujourd'hui essayent et vivent et créent un environnement propice au développement, à la prise d'initiative, à l'encouragement des jeunes. Et de l'autre côté, à l'opposé, on a également, bien sûr, les sociétés qui restent dans l'esprit du contrôle et du boss qui a toujours raison.
Alors, revenons à vous, justement, à ce démarrage de la quête de soi, à un moment où c'était presque une faiblesse d'aller se chercher.
Effectivement. Quelque part, là, on est dans version homme.
Oui.
L'environnement social, professionnel, nous pousse, je dirais, les hommes à montrer qu'on est fort, à prétendre qu'on l'est tout le temps. Et effectivement, à l'époque où j'ai commencé, c'était 100%, c'est ce qu'il fallait être. Et puis, quelque part, il a fallu, à certains moments, se battre un peu contre le courant.
Absolument.
Pour imposer une version plus humaniste, je dirais, des relations humaines, mettre un peu l'humain avant le résultat, et quelque part être convaincu que, en fait, même pour atteindre un résultat professionnel, l'investissement en l'humain, pour l'humain, à la fin, à moyen terme, peut-être pas à très court terme, mais à moyen terme et à long terme, nous permet de gagner énormément, même sur des métriques qui sont plus
Alors, sortons de l'entreprise, sortons du jargon, des métriques, etc. Non. Revenons à version homme. Dites-moi, justement, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à cette époque-là, à défier mentalement, psychologiquement, peut-être inconsciemment, la société et ses prérequis pour vous lancer dans cette quête personnelle, un moment où l'homme ne devait pas se poser ce genre de questions, l'homme devait ramener le kfa, comme on dit, tout court?
Oui. C'est une grande question. En fait, un de mes premiers mentors, m'avait ouvert les yeux sur ma façon normale de travailler ou de réagir ou d'interagir avec les autres. Il m'avait dit: Sofiane, tu as beaucoup plus d'empathie. Donc, je remarque que c'est une de tes qualités. À l'époque, je ne savais même pas ce que le mot voulait dire.
Absolument, je comprends.
Mais effectivement, et donc, il m'a effectivement ouvert les yeux sur juste une tendance naturelle. Ce n'est pas voulu, c'est juste comme ça. C'est que quand j'interagis avec les autres, j'essaie d'abord de comprendre leur point de vue, de comprendre leur ressenti, ce qu'ils veulent sortir de cette interaction avec moi, et puis essayer quelque part de trouver dans mes propositions d'interaction avec les autres un juste milieu. Quelque part, ne pas tirer la couverture à soi, mais comment définir la relation humaine ou professionnelle de façon à ce qu'elle, soit satisfaisante pour les deux.
Alors, ce mentor, vous l'avez connu où et comment? C'était dans le milieu professionnel?
Milieu professionnel. Donc, la plupart de mes mentors viennent du milieu professionnel.
Et donc, lui-même était déjà sensibilisé à ce monde-là du développement personnel.
Effectivement. Et effectivement, à travers ces années, je cumule maintenant 25 années d'expérience. Donc, vraiment, j'ai commencé le siècle dernier à travailler. Et donc, j'ai effectivement eu la chance de rencontrer de belles personnes sur le chemin qui m'ont donné des petits cadeaux de sagesse, certains par rapport à comment concevoir le rôle de père à un moment où je ne pensais même pas encore au mariage, donc j'étais encore tout jeune. Et j'ai rencontré un mentor qui a partagé avec moi sa vision du rôle de père. Et je me souviens que c'était une illumination de voir le rôle autrement que, encore une fois, dans la commande et le contrôle.
Et l'obligation.
Comme un, voilà, comme une obligation, comme je disais tout à l'heure, le fort.
Exact.
Non. Mais maintenant, voir comment est-ce que reconsidérer son rôle de parent comme quelqu'un qui a la responsabilité d'aider ses enfants à atteindre leur potentiel.
Ok.
Et alors, non pas de réaliser nos soifs
personnelles. Alors, personnel. En même temps, je ne sais pas, corrigez-moi si je me trompe, mais j'imagine que ces gens-là ne vous prenez pas par la main et vous faisiez la leçon. Ce n'était pas des leçons, ce n'était pas des cours magistraux. C'était des discussions. Mais qu'est-ce qui faisait que vous, à chaque fois, vous étiez dans le chemin de ces mentors? Est-ce que c'est une capacité d'observer, d'analyser, d'absorber sans forcément que ce soit structuré? Voilà, c'était quoi votre rôle à vous?
Deux éléments.
Ouais, allez-y.
Deux éléments. Le premier, c'est en fait ma façon d'apprendre naturelle, en tout cas dans les premières années, c'était quand j'identifie par exemple quelque chose que je ne fais pas bien ou je pourrais m'améliorer, c'est de regarder autour de moi et d'identifier quelqu'un qui est parfaite, d'accord, et de l'observer, et d'observer comment ils font, d'observer et d'apprendre d'eux. Donc ça, c'est la première chose, donc de me dire que d'abord savoir ce que toutes les choses où je ne suis pas bon, d'accord, où il y a moyen de s'améliorer, d'accepter qu'on puisse être meilleur et que d'autres personnes le soient, et d'apprendre d'eux en les observant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est vrai que je n'avais absolument pas honte d'aller vers ces gens-là une fois que je les identifie et de leur dire, écoute, il y a quelque chose que tu fais et pour lequel je te respecte énormément, et c'est telle ou telle chose. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Pourquoi tu le fais? Comment tu le fais? Et ça, pendant les premières années, les premières dizaines d'années de mon expérience professionnelle, ou même avant, c'était une façon non seulement d'apprendre de ces gens-là, d'avoir des discussions, comme vous disiez tout à l'heure, qui étaient moins structurées et plus dans autour d'un café. Et troisièmement, et ça je m'en suis rendu compte après, c'est que quelque part, ces gens-là apprécient bien sûr ce geste d'aller vers eux et de leur dire « Waouh, je veux apprendre de toi ». Ça renforce les liens, ça crée le réseau, ça crée ça crée des mentors en fait pour la vie. Donc tu ne vas pas avoir honte d'aller vers les autres. Des fois on se dit si on admet aux autres qu'on ne sait pas faire quelque chose,
c'est une faiblesse.
C'est une faiblesse, alors que en fait c'est un super investissement dans les relations humaines, dans un apprentissage accéléré.
Alors, de par votre expérience à vous personnelle, ce retour, est-ce que vous remarquez qu'il y a des gens qui ont aujourd'hui, des jeunes aujourd'hui, qui ont cette soif de se développer comme ça, d'avoir l'humilité de dire « je ne sais pas ». Est-ce que cette humilité existe encore ?
Oui. Moi, je pense que, au contraire, moi, je pense quelque part qu'elle est naturelle et que c'est l'environnement qui force les gens à se taire ou à ne pas oser aller vers les autres. Naturellement, on a tendance à échanger. Regardez les enfants, il n'y a pas de souci. S'il voit quelqu'un qui fait quelque chose de beau de l'autre côté, qui est en train de jouer à quelque chose d'intéressant, il va le voir.
Absolument.
Je peux jouer avec toi, je peux. D'accord. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on voit également des différences entre garçons et filles ou jeune homme, jeune femme, où quelque part on s'attend, on revient à la notion de version homme, on s'attend que les jeunes hommes, que les hommes, en fait, qu'ils soient parfaits, forts à tout moment et qu'ils soient absolument capables de tout faire tout le temps.
Absolument.
Et ces messages, qu'ils soient directs ou indirects, empêche les jeunes d'aller vers les autres. Et...
Alors, sans ces rencontres-là, sans ces mentors que vous avez... C'était tous des hommes, ces mentors ?
Pour la plupart.
Pour la plupart. Il y a eu des mentors femmes ? Vous pouvez dire non, hein, ça arrive que la vie ait mis sur votre chemin des hommes et pas des femmes.
Non, en fait, non, j'ai beaucoup appris en fait de plein de personnes, qu'ils soient hommes ou femmes.
Oui.
Effectivement, pour les personnes avec qui j'ai gardé des relations de mentoring à moyen terme, c'est effectivement tous des hommes. Mais j'ai également appris énormément de femmes autour de moi. Et pareil, si on a une qui fait quelque chose de bien, ben je vais également vers elle. Ça m'est déjà arrivé d'aller poser la question et tout. Mais
bon. Alors, j'avais abordé un aspect avec d'autres hommes, de version homme. C'est que cette quête de soi, elle a tendance parfois à perturber l'entourage. Est-ce que ça a été votre cas aussi, quand on a une famille, quand on a une femme, des enfants, etc., quand le fait de voilà, vouloir toucher à autre chose, apprendre, ce questionnement intérieur impacte les autres parce qu'ils ont peur du changement. Est-ce que vous confirmez, Sofiane?
Je ne sais pas. J'ai toujours été à la recherche du changement. Donc, j'irais presque le fait de changer fait partie de mon... De comment je me définis et peut-être comment les autres, bon, ma famille, me perçoit. Et vous voyez ce que je veux dire, le changement lui-même est une habitude. Je pense que le jour où j'arrêterai de chercher quelque chose de nouveau, là où ça va être, ça inquiétera mon entourage. Mais en général, c'est plus des apprentissages, je dirais. Ce ne sont pas des transformations radicales.
Radicales, c'est ça. Ce n'est pas des changements de cap professionnel, ce n'est pas des changements de carrière complètement. Voilà, c'est ça.
C'est dans la douceur. Et j'ai la chance également que dans ma famille proche, que ma femme, par exemple, mes enfants, soient également intéressés par les apprentissages nouveaux. Donc, il y a plein de fois où, en fait, on apprend ensemble.
Oui.
Ou si je découvre quelque chose, on discute. Et vice-versa. Donc, non, il n'y a pas de... Dans ce sens-là, il n'y a pas de dérangement, je pense.
À poser, il n'y a que la question.
Je vais la poser.
Exact. Alors, vous êtes quel papa aujourd'hui, justement, à travers ce parcours de la vie?
Oula. Je dirais que j'ai changé avec le temps. Mes enfants m'ont changé. Le travail m'a changé. Et j'ai commencé avec des certitudes. Et puis à chaque fois qu'on interagit avec les enfants, à chaque fois qu'ils arrivent à des étapes où ils grandissent, en fait, ils nous confrontent à notre réalité, nos challenges. Et puis, il y a plein de fois où il y a eu des remises en question. Grâce aux enfants, effectivement. Et je dirais que je ne suis pas le même parent maintenant que j'ai été au début.
Alors, cette remise en question, vous pensez que vous auriez pu être vos enfants avec votre propre père? Est-ce que vous auriez pu être comme vos enfants sont avec vous, avec votre propre père, vous-même?
C'est une excellente question. La réponse rapide est non, ou même absolument pas. Mais c'est une quête continue, c'est-à-dire même à l'instant, littéralement cette semaine, j'ai des moments de réflexion, des moments où je suis en train d'échanger avec d'autres personnes par rapport à justement ma relation à mon père, ma relation à mes enfants. Et non, c'est une quête continue. Vraiment, l'enfance nous détermine en plein d'aspects. Et il y a certains aspects qui sont des aspects moteurs. Il y a des aspects qui sont des aspects limitants. Et quelque part, dans la totalité, je pense que tout le monde passe des remerciements à nos parents pour ce qu'ils nous ont aidés à faire, aidés à être, d'accord ? Mais en même temps, c'est un exercice extrêmement lent et ardu que d'identifier les autres facettes,
absolument,
limitantes,
d'arriver
à les dépasser. Et cet exercice n'est pas encore fini pour moi.
Oui, absolument. Et surtout que dans notre culture, Redat Loualidine fait en sorte qu'on a cette perception qu'il ne faut pas remettre en question. Et si on remet en question, c'est qu'on juge, alors qu'on peut... pas remettre en question, mais questionner, c'est différent.
Effectivement. Et c'est beaucoup, et je pense que nos auditeurs seront d'accord, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
Ouais.
C'est un exercice de longue haleine.
Je pense que ce qui facilite les choses, ce qui les rend faciles, c'est lorsque nos propres parents ont pris conscience de leurs erreurs en tant qu'humains, en tant que parents, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de mode d'emploi de la parentalité, et qui nous encouragent à être des parents différents.
Quand je pourrais répondre à cette question, aller dans votre sens, si je ne prenais que mon rôle d'enfant, de ses parents. Mais en fait, quand je mélange et le rôle d'enfant et celui de parent, je dirais qu'il n'y a d'erreur que l'intention. Ça veut dire que si on a la... Si à partir du moment que les parents, que ce soit nous, les nôtres ou nos enfants quand ils en auront, à partir du moment où ils font ce qu'ils font avec l'intention de veiller à notre bien.
Exact.
Je pense qu'on ne peut pas parler d'erreur. Mm. Et notamment qu'il y a des jugements et des critères, des attentes sociales qui changent de génération en génération. Je pense que ce serait trop facile de les juger à la lumière des normes sociales actuelles.
Actuelles, tout
d'accord,
à fait.
D'accord, donc d'un côté. Je pense que, encore une fois, je prends mon premier exemple, je fais mon mea culpa ici, à l'antenne. Il y a des phases où je n'ai pas réussi d'un point de vue rapport à mes enfants, où maintenant je regrette certaines actions, certaines paroles, mais je sais qu'au moment où ça s'est fait, je partais
d'une bonne intention.
En étant convaincu que ce que je faisais, ce que je disais, était pour le bien de mes enfants. Mm. Maintenant, avec plus de recul, avec justement la discussion avec mes enfants pour arriver à voir de leur angle, je vois certaines choses d'une façon différente.
Mais alors, si je peux me permettre, si vous avez cette clairvoyance de l'intention, ouais, etc., comment se fait-il que votre... justement, cheminement personnel avec votre papa ne soit pas encore terminé? Pourquoi ça prend encore du temps, tout ça?
Ouais, en fait, c'est parce que... je dirais que c'est par phase, d'accord,
ouais.
Et en fait, mon père est décédé il y a 2 ans.
L'arhamon.
Donc, donc c'est tout frais,
ouais.
Et quelque part c'est un moment important, c'est un moment qui me pousse à qui me pousse à revoir, à revisiter l'histoire, à revisiter mes propres prises de position, d'accord. Donc oui, c'est pour ça que c'est encore
frais,
ça se travaille encore.
Okay.
Exactement.
Ok, je vous laisse tranquille par rapport à ça, au contraire, avec beaucoup de pudeur.
Pas de soucis, vous pouvez poser les questions que vous voulez.
L'alertec, M. Soufiane, merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir joué le rôle de l'homme d'aujourd'hui, dans cette version homme de femme d'aujourd'hui. Soufiane Erraji, merci infiniment pour votre bienveillance, pour votre douce voix réconfortante, et voilà, pour d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance, dans ce rendez-vous masculin sur Média 1 et bien sûr en avant-première sur Média 1 Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Média 1 Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.